salue toutes et tous, auditrices et auditeurs fidèles des radios libres en direct de Radio Méga Valence, en rediffusion sur RDOA à Die et sa région et Radiola, web radio basée à Djelfi. Atomic Mac est une émission antinucléaire mensuelle réalisée par le réseau Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche. L'équipe aujourd'hui est composée de Jean-Pierre aux choix musicaux. Salut Jean-Pierre. Dominique. Georges et Gérard aux interviews. Nous retrouverons Dominique et Georges d'ailleurs, pas qu'aux interviews, mais aussi aux rubriques. Nous avons invité aujourd'hui Estelle Berger, présidente de la CRIRAD, nouvelle présidente de la CRIRAD depuis un an, et Alain Vol, un habitué de Atomic Mac, qui est référent nucléaire du groupe Greenpeace de Montélimar. Avant de retrouver Alain et tout le monde, Georges et Dominique pour la rubrique Fukushima.
Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce billet international, quelle est l'actualité de la centrale de Zaporijjia pour commencer ?
Oui, bonjour auditrices et auditeurs, une actualité toujours inquiétante. En effet, selon RFI du 16-4-2026, pour la 13e fois depuis le début de la guerre, cette centrale occupée par l'armée russe a perdu toute son alimentation électrique extérieure, indispensable pour refroidir le combustible radioactif. Ce sont des actes de sabotage commis par la Russie, dénonce Jan van de Put, spécialiste des enjeux de radioprotection au sein de Greenpeace Ukraine. Ce qui est remarquable, c'est que l'électricité nécessaire aujourd'hui pour maintenir la centrale en sécurité est fournie par l'Ukraine, explique-t-il. Il ne reste plus que 2 lignes sur les 10 d'origine et ces 2 lignes ont été endommagées à plusieurs reprises par la Russie. Ce sabotage des lignes à haute tension poursuit un objectif très clair selon cet expert. De les déconnecter et d'obliger ainsi l'Ukraine à permettre à la Russie de raccorder la centrale au réseau russe. Si les Russes y parvenaient et qu'ils pouvaient redémarrer ne serait-ce qu'un seul réacteur, il n'y aurait alors plus de retour en arrière, leur garantissant le contrôle de la centrale pour toujours. Une stratégie particulièrement risquée, en privant la centrale de son alimentation électrique, la Russie l'expose à un risque majeur pour sa sûreté, avec la menace à terme d'un grave accident nucléaire, selon Greenpeace.
Le Figaro du 27 février donne d'autres informations tout aussi inquiétantes.
Oui, toujours sur la centrale de Zaporijjia, l'organisation Truffhounds a documenté des détentions de civils, la pression exercée sur les employés et l'implication progressive de Rosatom dans l'administration du site. En effet, les interrogations visaient souvent à obtenir des renseignements sur les activités de résistance, les armes et les liens avec l'armée ukrainienne. Certains détenus ont été contraints de signer des accords. Il y aurait eu au minimum 226 cas de détention illégale de civils à Enerhodar, dont des employés de la centrale. Certains détenus ont été battus, voire plusieurs fois par jour, d'une manière laissant aucune blessure externe visible, et étaient menottés pendant les coups. Certains avaient la tête recouverte de sacs pendant qu'ils étaient battus, ce qui provoquait des suffocations. La chercheuse Kenza Karmaoui dénonce, alors que le personnel doit pouvoir travailler sans pression, des personnes ont subi des actes de violence, il y a eu des faits d'intimidation, et toute la culture de sûreté de la centrale a été érodée. Elle affirme que Rosatom étant une entreprise d'État, cela veut dire qu'il y a des relations particulières entre l'entreprise et les pouvoirs russes. Après une réunion du 25 février de l'AIEA, les familles de détenus d'Enerhodar appellent les États à intervenir pour obtenir leur libération.
Et maintenant, quelle est l'actualité, cette fois-ci, de Fukushima ?
Oui, d'après NHK du 21 avril, après le tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu lundi 20, l'agence recommande aux habitants de 7 départements, dont Iwate, Fukushima et Hokkaido, de se préparer à une éventuelle catastrophe et de rester attentifs aux mises à jour jusqu'au 27 avril. Les autorités indiquent qu'il existe une probabilité accrue d'un mécaséisme le long de 2 fosses profondes dans l'océan. Aucune évacuation préventive n'a été requise, mais un tsunami de 80 cm a frappé le port de Kouji dans le département d'Iwate. Selon Fukushima Blog du 21 mars, toujours Fukushima, oui, TEPCO a diffusé le 19 mars 2026 des images montrant un trou dans la cuve du réacteur numéro 3. Ces images prises par une caméra embarquée sur des micro-drones montrent des structures délabrées recouvertes de corium, c'est-à-dire combustible et matière fondue. Les investigations se sont déroulées du 5 au 19 mars et le démantèlement complet des débris de l'unité numéro 3 commencera à partir de 2037.
Eh bien, on a le temps de prendre des vacances et de bronzer. Je vous laisse en compagnie tous les deux, Georges et Dominique, avec notre invité du jour, Alain Vol, référent nucléaire à Greenpeace de Montélimar. Et le sujet, c'est « Il y a 40 ans, Tchernobyl ».
Alain Vol, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Tchernobyl, c'était en effet il y a 40 ans et pourtant ses conséquences se font toujours sentir. Nous voilà en Ukraine. Le sarcophage et la nouvelle arche de confinement ne suppriment pas la menace. Le démantèlement semble impossible. Où en est-on avec cette catastrophe ?
Eh bien, effectivement, nous avons commémoré le week-end dernier les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl, puisqu'effectivement, le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, qui à l'époque était en URSS, a provoqué le plus important accident nucléaire civil jamais constaté, c'est-à-dire au niveau 7 sur l'échelle INES, I-N-E-S. Cette échelle INES, en fait, c'est une échelle internationale de classification des événements nucléaires, mesurant principalement leur gravité, à l'image de l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Alors, cet accident a libéré dans l'air un nuage radioactif qui s'est propagé principalement sur toute l'Europe, avec de lourdes conséquences à court et à long terme sur les populations et sur le milieu naturel de plusieurs pays. Un nuage radioactif, il y a un très grand nombre d'éléments, mais en particulier, je m'arrêterai sur deux, l'iode 131 et le césium-137. Alors, l'iode 131, c'est un élément radioactif qui vient attaquer directement la thyroïde. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens qui sont sous un nuage radioactif de prendre des pastilles d'iode, parce que cet iode que l'on ingère vient se positionner sur le récepteur de la thyroïde, empêchant l'iode radioactif de s'y déposer et d'être actif. On protège la thyroïde. Et le césium-137, c'est un radioélément qui est élaboré après la fission de l'uranium-235 dans la cuve des réacteurs. Il n'existe pas à l'état naturel. Et ce césium-137, il faut attendre 300 ans pour que sa radioactivité soit divisée par 1000. Donc c'est un élément radioactif extrêmement puissant, extrêmement fort.
Et ce n'est donc pas étonnant qu'on en retrouve, hélas, encore aujourd'hui. Alors, la CRIRAD va fêter ses 40 ans, puisque la CRIRAD a été fondée juste après la catastrophe de Tchernobyl et en conséquence à cette catastrophe. Or, ce laboratoire indépendant a démontré en 2015 qu'il y a encore des accumulations de césium-137 dans les sols, dans de vastes secteurs des Alpes en France, en Suisse, en Italie, en Autriche. Or, comme vous venez de nous le dire, eh bien ce césium-137 est très problématique.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai que la CRIRAD a fait cette enquête en 2015. Donc en fait, on constate que 29 ans après la catastrophe, à 1900 km de Tchernobyl, certains sols restent fortement contaminés et ça interpelle sur ce qui se passerait en cas d'accident nucléaire à un réacteur proche de nous. Et cette contamination a été confirmée par l'ACRO. L'ACRO, c'est un autre laboratoire indépendant, comme la CRIRAD.
Qui a été créé juste après la création de...
Juste après la catastrophe de Tchernobyl.
Après la CRIRAD.
Et qui travaille sur la contamination radioactive dans l'ouest de la France. Et lui, il a mené une enquête l'année dernière avec les enfants de Tchernobyl. Ils ont demandé aux gens de ramasser des champignons sur toute la France. Et là aussi, ils ont constaté qu'effectivement, les champignons, qui sont des bio-indicateurs sensibles au césium-137, étaient contaminés. Donc aujourd'hui, on a encore des territoires français, 40 ans après, qui contiennent du césium-137. Donc, C'est une catastrophe extrêmement grave, extrêmement importante, qui a eu des conséquences très lourdes et durables. Même si on nous a menti à l'époque en disant que le nuage s'est arrêté à la frontière, on sait très bien qu'il a contaminé effectivement tout l'Est et le Sud de la France. Et la Corse en particulier.
Oui.
Pour en revenir à Tchernobyl, finalement, est-ce qu'on sait combien il y a eu de morts? Parce que c'est une question qui est restée, qui a fait preuve de beaucoup de déni.
Alors, effectivement, il y a un gros débat sur le nombre de morts de Tchernobyl. Il y a quand même 600 000 liquidateurs qui se sont approchés de ce réacteur en feu avec une radioactivité très importante pendant des années pour bâtir le premier sarcophage. Il fallait effectivement essayer de contenir les radiations. Et ils ont apporté du sable, du plomb, du béton, et ils ont réussi à bâtir ce premier sarcophage. Et effectivement, un grand nombre d'entre eux ont été irradiés. Alors, le nombre aujourd'hui, officiellement, lors d'une conférence il y a quelques années entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'OMS, ils ont annoncé un chiffre qui est de 4000 morts. Mais beaucoup d'ONG estiment que les morts sont beaucoup plus nombreux, puisqu'on sait que les radiations ne tuent pas forcément tout de suite, mais qu'elles ont des conséquences avec des cancers et des leucémies à moyen et long terme, et parfois sur plusieurs générations. Donc c'est très difficile d'estimer le nombre de morts, mais ils sont des milliers et des milliers. En revanche, et je tiens à le dire, ceux d'entre vous qui écouteraient de temps en temps Jean-Marc Jancovici, quand il dit qu'il y a eu zéro mort à Tchernobyl, c'est du déni absolu. Et donc, il faut être très prudent avec ses propos, parce que c'est un pro-nucléaire à fond. Et donc, il nie complètement les morts de Tchernobyl, et ceux de Fukushima d'ailleurs. Donc, beaucoup de morts, des milliers de morts, et ça veut dire que vivre à côté d'une centrale nucléaire, si un jour il y a un nuage radioactif, les risques sont très sérieux, très importants.
J'ai un chiffre à rajouter, 80% des liquidateurs sont en vie, mais bien esquintés, bien malades.
Je le crois, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière deux journalistes qui enquêtaient sur le nucléaire et qui sont venus à Tricastin, je les ai accompagnés. Et puis après, quand on a commencé à discuter, je leur ai dit, vous savez, moi je ne vais pas vous dire des choses très positives sur le nucléaire, parce que bon, je milite pour la fermeture des réacteurs Tricastin. Et la journaliste me dit, mais monsieur, pas de problème, je suis ukrainienne, j'habite maintenant en France depuis longtemps, mais j'avais 7 ans, quand j'habitais à côté de Tchernobyl, j'avais 7 ans quand l'accident est arrivé, et mon souvenir, c'est qu'à l'école, on nous faisait boire du lait qui avait un goût absolument abominable, parce qu'en fait, il était bourré d'iode. Et donc, son père, qui était un liquidateur, est mort dans des souffrances absolument extraordinaires. Il a été mal soigné sur place, il a fini par venir en France, mais c'était trop tard. Donc, ces morts existent. Et donc, c'est très sérieux.
Paix à leur âme.
Paix à leur âme, oui.
Eh bien, donc, voilà ce que vous avez à nous dire sur Tchernobyl, et c'est vraiment pas encourageant. Donc, plus près de nous, avec Tricastin et Cruas, eh bien, il y a aussi des questions à se poser.
Oui, on va en parler après. En revanche, un petit détail quand même. Tchernobyl, il y a eu donc un sarcophage qui avait été bâti par les liquidateurs, mais il était moyen, on va dire. L'Union européenne a financé un deuxième sarcophage, ce que vous avez appelé une arche, qui a été installée plus tard. Et il se trouve que cette arche a reçu récemment, il y a quelques semaines, un drone russe qui a endommagé ce sarcophage. Et donc, il y a des risques à nouveau de fuite. Et ça, c'est un souci, parce que si les Russes continuent à bombarder Tchernobyl ou Zaporijja, oui, on risque d'avoir des problèmes très sérieux et un nouveau nuage.
Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On vous retrouve tout à l'heure, Alain, Dominique et Georges, pour la suite de cette interview. Depuis un an, Estelle Berger est la nouvelle présidente de la CRIRAD. On l'a invitée pour justement parler des 40 ans de la CRIRAD après la catastrophe de Tchernobyl. Et ben, Estelle, vous avez découvert la CRIRAD à quel âge ?
Bonjour. Alors c'est une association que je connais depuis très longtemps, puisque mon père était adhérent assez tôt à la création de la CRIRAD quand j'étais enfant. Donc j'ai toujours un peu connu la CRIRAD de loin. Il y avait la revue de la CRIRAD sur la table du salon. Et puis je l'ai redécouverte, moi adulte, pour les 30 ans de la CRIRAD, donc il y a tout juste 10 ans, où j'étais adhérente un peu de loin et j'étais venue pour la fête des 30 ans. Et c'est là que je m'étais dit que quand j'aurais du temps, je m'investirais un petit peu dans cette association-là. Déjà, j'avais fait quelques mois d'intérim l'année dernière quand Didier avait dû s'absenter un peu, donc on avait pu faire un premier essai, on va dire. Ensuite, je ne m'identifie pas aux prédécesseurs. Hein. Ils ont monté un truc absolument formidable. Je prends le relais de la place qui sera la mienne. Et donc, ça n'est pas le même type de présidence que ce qu'il y a pu y avoir avec Michel Rivasi, Roland ou Didier. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Bon, pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Un certain dynamisme à soutenir la nécessité d'une information indépendante sur cette question de la radioactivité. Voilà, la recherche, c'est le labo, et c'est tout le travail de dossier qui est en train de passer une transition aussi, hein, puisque les anciens, ceux qui ont créé la CRIRAD ou les plus anciens, ils sont un peu sur le départ, c'est normal. Et donc il y a une jeunesse qui arrive, et voilà, on accompagne cette transition. Ce qui m'importe, c'est que les gens... lambda, citoyens, citoyennes, puissent accéder à une information qui leur permette de se faire leur propre opinion. La CRIRAD n'est pas une association militante anti-nucléaire, c'est une association qui donne de l'information, et quand on a cette information, effectivement, c'est plus difficile d'être complètement favorable au nucléaire tel qu'il est. Hein. Voilà, donc moi ce qui m'importe, c'est que cette information continue d'exister, c'est le travail principalement des salariés, puisque moi, j'ai pas du tout les compétences scientifiques sur la radioactivité, mais mon job, c'est de leur permettre de faire le leur. Et donc, c'est ça qu'on continue et qu'il n'est pas question d'arrêter. La CRIRAD, c'est une association qui a une éthique qui est très, très vive et qui est très marquée. Une éthique d'intégrité intellectuelle et scientifique. Et il me semble que tant qu'on lâche pas là-dessus, même s'il y a des ajustements, des aménagements sur des choses, on garde notre orientation. Il y a 40 ans, j'étais gamine, hein, donc je peux pas dire que je connaissais la CRIRAD. Je connaissais le nom, mais je sais pas ce que ça voulait dire. Je fais partie des gens qui n'ont jamais rencontré Michel Rivasi. Donc je suis de la génération d'après. Donc l'enjeu, c'est une transmission d'une génération à une autre. Et ça, on est dans cet exercice-là en ce moment. Avec Julien, Sirène et Marion Jeanbrun à la codirection depuis 3 ans maintenant. Je crois que c'est un cap qu'on passe bien, mais on verra dans quelques années. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était pas le même type de communication, et aujourd'hui, un très gros travail pour essayer de toucher de nouveaux publics. Et ça, c'est le challenge d'aujourd'hui, c'est de pouvoir intéresser des jeunes, avec des informations qui sont complexes et qui ne se lisent pas forcément en 3 lignes comme un tweet. Et ça, c'est le challenge, là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en interne, la transmission, elle est plutôt assurée, il me semble, même au CA. Hein. Au CA, bon, moi, je suis la plus jeune, mais je veux dire, les membres du CA, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des jeunes retraités. Enfin, je veux dire, c'est pas que les anciens. Et puis, il y a des nouveaux membres du CA aussi, enfin... des gens qui n'étaient pas encore au CA, qui n'ont jamais été, donc il y a du nouveau. Après, c'est du côté du public, où le gros travail aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser des gens qui ne le sont pas forcément maintenant, quoi. Moi, j'ai un rapport très vivant au lien social, et donc je me déplace à la CRIRAD, comme le faisaient les anciens. C'est-à-dire que le Covid est venu amener la visio par nécessité, et puis c'est un petit peu resté, parce que quand on habite très loin, c'est quand même vachement pratique. Moi, j'habite pas très très loin, donc je me déplace pas mal, et du coup, l'enjeu interne de rencontrer les salariés, ça fait déjà 2-3 ans que je participe à ce travail-là, d'abord avec Didier, et puis cette année autrement, enfin sans Didier. Le lien d'articulation CA-salarié, le CA c'est un employeur, hein, donc on a des instances de représentation du personnel, et puis on a aussi des rencontres directes, par exemple, vendredi soir on avait un CA, Bruno était encore dans les murs, j'ai discuté avec Bruno, et j'essaye de faire ça avec tous les salariés que je croise, de même que d'autres administrateurs, prennent du temps avec les salariés quand on les voit. Le deuxième point de lien avec les adhérents, bah ça c'est le travail du trait d'union, c'est le travail des AG, c'est le travail des salons, enfin, et donc là on continue ce qui existait, hein, il n'y a pas de révolution parce qu'il y a un changement de présidence. Actuellement il y a 10 salariés et il y a une stagiaire. Mais effectivement, dans la vie d'entreprise locale, bon bah déjà c'est un beau bâtiment dans une zone où il y a des entreprises. C'est pas juste une association de trois copains qui travaillent sur un sujet, quoi.
Merci Estelle, que nous retrouvons tout de suite sur la notion d'indépendance de la CRIRAD. Alors la CRIRAD a près de 4900 salariés, je crois savoir. Ça c'est une indépendance économique, mais quelle indépendance à l'heure actuelle vis-à-vis du politique et puis de cette dérive illibérale de la société ?
Première indépendance d'une association, que ce soit la CRIRAD ou une autre, hein, c'est d'être le moins dépendant possible du politique. Il se trouve qu'à la CRIRAD, le laboratoire, il est indépendant, hein, on n'est pas financé par l'État, on n'est pas... Voilà. C'est un axe qu'on maintient et, à ma connaissance actuellement, pas du tout l'intention de changer. On est dans la même ligne que ce qu'il y a toujours eu, donc qu'on traverse des moments plus difficiles, je crois que des attaques, il y en a déjà eu des très fortes, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, la CRIRAD n'a jamais été vraiment d'ailleurs attaquée, en tout cas à ma connaissance, sur ses résultats. Sur l'interprétation des résultats, il y a des accords évidemment, hein, mais sur les résultats eux-mêmes, la CRIRAD elle est reconnue. Hein. Et ça, on continue dans cette ligne-là, donc il n'y a pas de raison que ça change. L'essentiel, c'est de maintenir la qualité du travail. Et c'est sur ce point-là que le fait de rajeunir l'équipe aurait pu... amener des difficultés, et ça n'est pas le cas puisque le travail est toujours aussi sérieux. Crise ou pas crise, la CRIRAD, elle dira ce qu'elle a à dire. Là où je suis plus inquiète d'une certaine manière, c'est d'abord quel niveau d'information nous aurons pour pouvoir aussi avoir quelque chose à en dire. Mais ça, bon, ça c'est les réseaux de connaissances aussi, évidemment, des différentes institutions. Et puis, là où je suis le plus inquiète, c'est que les attaques sur les centrales nucléaires, par exemple, ne font pas réagir. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant aujourd'hui. C'est que, bon, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, il y a eu d'autres accidents, plus ou moins graves, dont on peut dire, toujours trouver des raisons, des excuses, etc. C'est pas si grave. Bon, voilà, ça c'est tout un discours... qui n'est évidemment pas celui de la CRIRAD, qui a tendance à défendre que n'importe quelle dose peut avoir des effets. Et en fait, là, toutes les angoisses qu'il y a, socialement parlant, hein, autour de Zaporijja, autour de Tchernobyl, autour de l'Iran, eh ben, ne font pas réfléchir sur la relance du nucléaire, par exemple. Et ça, c'est un point qui me motive, moi, à occuper la fonction que j'occupe pour aller... dire les choses, quoi, enfin pour essayer d'ouvrir un peu la réflexion sur quand même, c'est pas anodin comme technologie, quel risque on prend quand on fait ça. Il y a une capacité quand même à lire la réalité d'une autre manière que moi. Alors ça c'est toujours une question pour tous les êtres humains, hein, que l'autre puisse penser différemment. alors, je rappelle juste, hein, la CRIRAD, ça n'est pas une association anti-nucléaire en soi. Hein. C'est une association d'information, et avec les infos qu'elle a, qu'elle donne, qu'elle produit, effectivement, ça sert beaucoup à toutes les associations anti-nucléaires, et c'est comme ça qu'il y a un réseau autour de la CRIRAD très conséquent. Je suis entrée à la CRIRAD par une question que Bruno m'avait posée un jour, Bruno Chariron, c'était le nucléaire est-il compatible avec la démocratie ? Et c'est cette réflexion-là qui m'a fait venir. C'est-à-dire comment, si on réfléchit et qu'on discute à plusieurs, est-ce qu'on irait vers le nucléaire si vraiment on réfléchissait et qu'on discutait à plusieurs ? Je ne suis pas sûre. De se dire ça n'arrive qu'aux autres, ou ça ne peut pas arriver chez nous, nous on est bien plus sécurisés. Enfin, c'est un discours que je trouve inquiétant, parce qu'il n'envisage pas la possibilité que quelque chose échappe. Et ça, c'est très 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 problématique chez l'être humain. Quand il est convaincu que rien ne peut lui échapper, généralement, on va au drame. S'il y a un accident et que la région Rhône-Alpes est évacuée, évidemment, la CRIRAD, elle va avoir du mal à donner de l'info. Hein. Je vous avouerai que sur cette question-là, je ne sais pas trop comment vous répondre, en dehors de dire qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour informer. On fera tout ce qui est possible. Mais je ne sais pas dans quelle mesure les choses seront possibles ou pas. Enfin, il y a vraiment un point sur lequel je veux insister, c'est que si la CRIRAD existe, c'est parce qu'il y a des gens extrêmement compétents qui la font au quotidien. Je pense à toute l'équipe salariée. Toutes, hein. Je veux dire, c'est pas juste la co-direction, ils font un super boulot. Mais ils sont bien entourés, ils savent se faire entourer aussi. Et puis, il y a voilà, une équipe de bénévoles qui tient plutôt bien les choses. Pour autant, on sent un vieillissement, évidemment, hein, des bénévoles. Et là, par exemple, pour le 23 mai, on aurait besoin de monde, on aurait besoin de bras pour tenir cette journée. Et comme dans beaucoup, beaucoup d'autres associations, hein, on sent aujourd'hui que c'est plus difficile de trouver des bénévoles. Donc j'en profite pour faire un petit appel. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec la CRIRAD pour venir donner un coup de main ce jour-là.
Voilà, nous retrouverons après l'interview d'Alain dans la deuxième partie de cette interview. Mais avant, Cheval Magique, les lampadaires du nucléaire.
Fortifier la forêt dans les champs de blé, ils ont canardé, eux là tous rangés, tous les policiers à bout portant, ils ont tiré, touché, blessé. Je ne savais pas, qu'est-ce que c'est que ça, dangereux ce sera, une centrale tiendra pas, la pointe du rat, tout en gloutir.
Je te laisse, Georges, en compagnie de notre invité, Alain Vol, référent nucléaire de Greenpeace, à groupe de Montélimar.
Alain, salut, merci de bien vouloir répondre à mes questions. Alors, les centrales vieillissantes en vallée du Rhône, il y a Cruas et Tricastin, qui sont prévues pour durer 40 ans et qui doivent être prolongées jusqu'à 50, voire 60 ans par EDF.
Et même plus, puisque le directeur de la centrale du Tricastin, lors de ses vœux en début d'année, a indiqué qu'il envisageait de prolonger Tricastin jusqu'à 80 ans. Donc, c'est très inquiétant, parce que quand on connaît l'état des réacteurs de Tricastin, qui ont de nombreux soucis, on pense que le risque d'accident qui était possible devient probable.
On retrouve ça dans le rapport de 2020 de Bernard Laponche.
En effet, en 2021 exactement, un physicien nucléaire, donc Bernard Laponche, a répertorié les incidents au Tricastin sur la période 2010-2020. Et il l'a fait sur la base des déclarations d'EDF à l'autorité de sûreté nucléaire. Il a relevé 147 incidents de niveau 1 et 2 sur l'échelle INES qu'on évoquait tout à l'heure. Et alors, le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'incidents et qu'on ne sait jamais à quel moment un incident peut basculer en accident. Mais surtout, au moment où ces réacteurs périmés devraient être étroitement surveillés, la sûreté, qui est essentiellement réalisée par des sous-traitants, c'est une sûreté low cost. Et le risque d'accident s'accroît avec le temps. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand EDF, qui sous-traite effectivement beaucoup de ses opérations, sous-traite à des sociétés extérieures la maintenance et la sûreté de ces réacteurs, ce n'est pas le plus compétent ou le plus expérimenté qui est choisi, c'est le moins disant, le moins cher. Et donc ce sous-traitant fait appel à un deuxième sous-traitant, qui lui-même a fait appel à un troisième sous-traitant et a fait appel à un quatrième sous-traitant. Ce qui fait que certains de ces travailleurs sous-traitants qui sont des travailleurs détachés, qui arrivent des pays de l'Est, de la Roumanie ou de la Pologne, ne savent même pas lire les notices. Et c'est ce que nous disait Gilles Reynaud de Ma Zone Contrôlée jusqu'à l'année dernière. Donc ça, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant, parce que ces réacteurs devraient être très contrôlés. Et malheureusement, les sous-traitants nous disent non, on n'a pas les moyens, on ne peut pas.
Oui, c'est ce que tu dis, ce n'est pas nouveau. Mais cela devrait apparaître quand même, parce que en juin 2026, une enquête publique est instituée pour la prolongation des vieux réacteurs 3 et 4.
Oui, alors cette enquête publique va démarrer, je crois qu'elle démarre très très prochainement, et j'aimerais d'ailleurs en parler avec tous vos auditeurs à la prochaine émission. Mais ce réacteur 3 et ce réacteur 4 sont aussi mal en point, puisque je reprends les chiffres de Bernard Laponche, sur 2010-2020, il y a eu 34 incidents sur le réacteur 3 et 33 incidents sur le réacteur 4. Donc eux aussi sont pas très bien en point. Et deux points particuliers, sur le réacteur 3, on a eu un problème de corrosion sous contrainte, puisque ils ont été obligés de couper un morceau de tuyau sur un circuit de refroidissement pour examiner en détail ce qui se passait. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai problème, et ça s'est passé un peu sous les radars. Et le réacteur 4, il a un autre problème, c'est que lui, et ça on en reparlera je pense dans les mois qui viennent, il a un problème sur ce qu'on l'a évoqué déjà, c'est sur un coude E. Et ces coudes E, ce sont les coudes qui sont fixés sur la cuve et qui ramènent l'eau froide pour refroidir le réacteur. Et il semblerait que ces coudes E, qui ont été forgés donc il y a une 40 ou 50 ans, ils ont aujourd'hui des problèmes parce que les matériaux utilisés n'étaient pas complètement fiables, et donc l'ASN s'inquiète beaucoup de l'avenir de ce réacteur E pour le réacteur 4. Donc, à suivre de très près.
Tout à fait, nous comptons sur toi. Et tout ceci nous amène à la probabilité d'un accident grave qu'il faudra bien gérer. Alors, un exercice de crise a eu lieu en novembre 2025. Quelles consignes majeures pour quel type de population ?
Alors oui, c'était un exercice qui a eu lieu donc en novembre 2025, auquel j'ai participé en tant que membre de la CLIGET, comme observateur. Et donc, on a passé une journée autour du préfet et des équipes qui prennent en charge les accidents graves dans la région, et en particulier les accidents nucléaires. Pour faire court, en fait, un avion s'était abattu sur le canal de Donzère-Mondragon.
C'est un scénario.
Le scénario disait, un avion s'est écrasé sur le canal de Donzère-Mondragon, et donc a perturbé le refroidissement des réacteurs 3 et 4, et en particulier pour le réacteur 4, une aile de l'avion a coupé les circuits de refroidissement, et il y a un risque de fonte du cœur. Eh bien, ce que j'ai observé, c'est qu'à midi, effectivement, EDF signalait que, par manque de refroidissement, le cœur du réacteur commençait à fondre, et que le corium allait pas tarder à percer la cuve. Et donc à ce moment-là, le préfet a donc recommandé l'évacuation. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, la préfecture, les autorités publiques, ils ont évacué 4000 personnes. Tout ça, c'est de la théorie, hein, mais ils ont évacué 4000 personnes, c'est-à-dire les enfants dans les crèches, les enfants dans les écoles maternelles et primaires, les gens dans les EHPAD et les malades à l'hôpital. 4000 personnes ont été évacuées en direction de Grenoble, pour ne pas être sous le vent ou en cas de nuage, qui pouvait arriver. Donc, eh bien, 4000 personnes, et pour les restes, c'était chacun pour soi, sauf qui peut. Donc c'est très important à savoir, si vous habitez dans le PPI de Tricastin, les 20 km, ou dans le PPI de Cruas, il y a très peu de chances pour qu'on s'occupe de vous sérieusement. Donc il faudra s'organiser vite. Mais c'est sur les 271 000 personnes du PPI de Tricastin, 4000 personnes...
Le PPI, c'est le périmètre concerné.
Oui, c'est les 20 km autour de la centrale. Hein. Eh bien, 4000 personnes sur 271 000 sont prises en charge, et tous les autres, c'est sauf qui peut.
Oui, je peux rajouter, pour avoir consulté le PPI, qu'il est effectivement prévu des blocages de route par les services concernés. Donc il faudra aussi en tenir compte. Hein.
Alors les blocages de route, parce qu'effectivement, l'objectif c'est d'évacuer les gens, de les éloigner du réacteur qui a un problème. Sauf que, effectivement, il y a des gens qui aussi, pour des raisons personnelles, professionnelles, circulent et vont rentrer. Et donc l'objectif des policiers, qui effectivement seront tout autour du PPI, c'est d'empêcher les gens de rentrer. Et c'est pas de forcer les gens à partir, mais ça va être un embouteillage monstrueux, ça tout le monde le sait.
Et enfin, dernière question, Greenpeace a communiqué sur le manque d'information de la population et la responsabilité des élus locaux. Donc, parle-nous du plan communal de sauvegarde.
Alors oui, ça aussi, c'est ce que j'ai observé durant cette journée, c'est qu'effectivement, la population aurait dû être prévenue qu'il y avait un exercice de crise ce jour-là. Et en fait, on s'est rendu compte, à travers les commentaires que j'entendais, les remontées qui arrivaient au préfet, que les gens n'étaient pas vraiment au courant qu'il y avait un exercice de crise. Donc, si vous voulez, on nous dit, on fait un exercice de crise, effectivement, c'est important pour que les équipes qui sont en charge se rôdent, mais en revanche, la population, elle, n'est pas tellement concernée. Et d'ailleurs, un détail, puisque j'ai discuté avec des journalistes après coup, ils me disaient qu'effectivement, à l'hôpital de Montélimar, où ils avaient prévu un service pour accueillir des gens potentiellement irradiés, les gens, les malades, les vrais malades, ont vu débarquer des gens avec des combinaisons, des cagoules, qui transportaient des gens sur des brancards, et quand on leur a dit que c'était des gens irradiés, c'était panique à bord, parce qu'ils n'étaient pas informés du tout. Du tout. Alors, effectivement, il y a un vrai problème d'information au niveau des élus. Alors, il y a quand même des choses qui sont prévues par la loi. Chaque commune doit établir ce qu'ils appellent un DICRIM, un document d'information communale sur les risques majeurs. Donc, dans les communes exposées à un risque majeur, le maire communique à la population, par tous les moyens appropriés, les caractéristiques du risque majeur, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours. Je lis l'article L125.2 du Code de l'environnement dispose que « Toute personne a droit à l'information sur les risques majeurs naturels et technologiques auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. » Donc, toutes les mairies qui sont dans les 20 km autour de Cruas et de Tricastin doivent établir ce DICRIM. Et bien entendu, il y a aussi le plan communal de sauvegarde. Ça, c'est la responsabilité du maire. Et le plan communal de sauvegarde, il a pour objectif de préparer la commune aux crises, catastrophes, accidents, canicules, épidémies. En lien avec le DICRIM, le plan communal de sauvegarde prévoit l'alerte et l'information des populations, le recensement des moyens et l'organisation de la réponse communale. En gros, chaque commune doit pouvoir dire aux citoyens, en cas d'accident nucléaire, vous devez vous rassembler à tel endroit pour être évacué. Et je conseille à tous les habitants des communes autour de Cruas et de Tricastin de demander à leur mairie de leur communiquer, enfin de leur parler de ce fameux plan communal de sauvegarde. Ça mérite une question.
Merci. Et on le répétera à chaque fois que nous ferons cette émission Atomic Pack sur Radio Méga. On va peut-être passer maintenant aux 40 ans de la CRIRAD. Présidente, qu'est-ce qui va se passer? Donnez-nous un peu des pistes de cette programmation du 40e anniversaire de la CRIRAD le 23 mai à Montélier.
Alors, ça fait partie des choses dont je me suis peu occupée, voire pas, parce que j'étais sur d'autres dossiers de la CRIRAD ces derniers mois, et que je n'ai pas prétention à ce qu'il y ait absolument besoin que je sois partout. Donc Marion Jeanbrun, qui a coordonné tout ça, pourrait vous renseigner plus que moi. Pour autant, ce qui est sûr, c'est que, bon, déjà, la question du calendrier, c'est aussi quand est-ce qu'on a trouvé une salle dans ces périodes-là. Une salle bien. Les temps de la journée, effectivement, ça va être des temps de conférences, des temps de théâtre d'impro pour essayer d'animer un petit peu tout ça entre les conférences. Et un concert le soir avec, évidemment, des stands, une buvette et tout ça. Les temps de conférences, discussions vont porter autour de l'historique, hein, de la CRIRAD, c'est-à-dire comment on est arrivé à avoir besoin socialement de d'une association comme celle-là. Donc la compte, c'est Tchernobyl, comment les manquements des autorités ont donné naissance à la CRIRAD. C'est quand même un point très important parce que 40 ans plus tard, on se rend compte qu'il y en a toujours besoin. Hein. Les missions de la CRIRAD en cas de catastrophe, donc qui pourraient répondre un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, quelle place pour la CRIRAD dans une catastrophe? Bon, vous en saurez plus ce jour-là. Et puis, comment la CRIRAD révèle-t-elle les impacts de l'industrie nucléaire, qui est le point un peu de lanceur d'alerte de la CRIRAD, qui était lancé comme ça par Michel Rivasi dès le départ, hein, et qu'on tient aujourd'hui, j'allais dire qu'on tient, et qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que ce sont vraiment les points d'information fondamentaux de la CRIRAD. Donc cette journée, elle va s'organiser autour des axes comme ça importants du travail de la CRIRAD, avec du spectacle d'impro par la compagnie Les Arsènes, et puis un concert de blues rock Lady Chesney Blues.
Voilà, donc il y a tout un tas de programmes. Vous pouvez venir à Radio Méga, il y en a dans le hall d'entrée pour vous faire une idée. On vous attend, nous y serons et on fera des interviews là-bas. Les trois moments importants, c'est les trois tables rondes à rubrique à brac.
Eh bien, pour revenir sur ce dont Alain Vol nous parlait, hein, quelle est l'actualité à Cruas et à Tricastin? Donc d'abord Cruas, Georges, nous t'écoutons.
Oui, merci. Cruas, à la suite du séisme du Taille du 11 novembre 2019, EDF a lancé un programme d'investigation pour améliorer la connaissance du sous-sol de la région. On obtiendra les données géophysiques nécessaires en faisant passer des camions vibrateurs sur les routes, en utilisant un bateau d'acquisition sismique sur le Rhône et ponctuellement en procédant à des détonations contrôlées en forage dans les zones escarpées difficiles d'accès. Les mesures géophysiques seront réalisées entre début mai et fin juin 2026. Le Tricastin, trois événements significatifs en mars impactant les réacteurs 1, 4 et 3 ont été déclarés au niveau 0 en dessous des Chélines à l'ARSN. Merci de votre écoute.
Et maintenant, Tricastin? Non, tu...
L'agenda proposé par Dominique, ben je vais prendre la parole. En fin de compte, le gros événement qu'il va y avoir ce mois, c'est les 40 ans de la CRIRAD. Donc on a besoin de vous toutes et tous. Tous rendez-vous le 23 mai à partir de 9h du matin, 9h, 9h30 du matin, avec les conférences sur place. Il y aura de quoi se restaurer et le soir de faire la fête. Donc n'hésitez pas à aller sur crirad.org pour avoir tout le programme.
Eh bien, voilà, cette émission est terminée. Donc, toutes les informations d'arrêt du nucléaire Drôme-Ardèche, SDN 26-07.org. Cette émission était réalisée par Jean-Pierre à la programmation musicale, Dominique, Georges et Girard aux interviews et à l'animation. Et vous pouvez podcaster Atomic Mac sur radio-mega.com, rdwa.fr, j'appelle rdwa.fr, et radiola.media. Merci à nos invités, Estelle Berger de la CRIRAD.org et Alain Vol de greenpeace.fr.
Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois sur toutes ces radios libres.
Je sens ton poids.